Alors voilà, j'ai la joie et l'honneur de vous présenter Maurice Jean-Charles, qui était pasteur à l'église de Tabernacle à Paris pendant combien d'années, Maurice ?
11 ans.
Pendant 11 ans. Et Thierry Huzer lui a succédé d'ailleurs au pastorat de Tabernacle à Paris. Il est retraité, il habite Mâcon. Et donc, j'ai pensé qu'il pourrait peut-être, bien qu'étant à la retraite, venir nous apporter la parole de Dieu. Et je pense que ça lui-même, ça te fait plaisir. Tu m'as dit ce matin. Donc, il est content d'être parmi nous et nous nous réjouissons d'avance de ce qu'il a à nous dire de la part du Seigneur.
C'est en effet, frères et sœurs, sœurs et frères, un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Parfois, on pense que celui qui apporte une prédication ou qui préside ne fait que donner. Et pourtant, je crois qu'on en reçoit davantage de vous que nous vous donnions. Votre présence, c'est comme des offrandes offertes à notre Dieu qui nous encourage. Vous connaissez sans doute cette parole des Actes. Quand Pierre arrive à Rome, enfin avant d'arriver, je crois que c'était aux Trois Tavernes, la parole nous dit, Pierre, Paul, voyant ses frères, reprit courage, se réjouit. Et chaque fois que nous nous voyons, nous nous réjouissons. Le Seigneur, la grâce du Seigneur nous anime et nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse ensemble, que sa lumière disperse les ténèbres, et que son esprit scelle en nous sa parole. J'aimerais donc lire avec vous dans l'évangile selon Jean, au chapitre 13. Au verset premier, il nous est dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait tant aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir maintenant, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu ne peux avoir de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. » Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire, de vous faire? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et c'est un exemple que je vous donne. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Nous arrêtons là la lecture. Nous connaissons tous ce passage. Ou du moins, l'essentiel, peut-être pas les détails, mais l'essentiel, c'est cette scène où Jésus lave les pieds à ses disciples. En quelque sorte, cette scène étrange, inattendue, est la pièce maîtresse de ce texte. Si bien que ce lavement des pieds a donné lieu à pas mal de polémiques, de débats. C'était de savoir s'il fallait prendre cette scène, ce spectacle à la lettre, ou bien simplement en tirer la leçon spirituelle dans un sens symbolique. Quant à moi, ce matin, frères et sœurs, ma préférence, ce n'est pas d'abord le geste que Jésus accomplit, mais c'est la parole qu'il a dite à Pierre, à savoir, si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir de part avec moi. Une parole dans son sens négatif formulée, une parole qui paraît menaçante. Mais c'est un avertissement que Jésus donne à Pierre pour lui faire comprendre les conséquences que risque son refus de se faire laver par Jésus. C'est un avertissement. Et pour ma part, je serais tendance à voir dans cet avertissement, plutôt qu'une sévérité, mais une pointe de tendresse. Si on voulait dire les choses de façon positive et non pas négative, on dirait que Jésus parlerait ainsi à Pierre, « Mon ami, c'est pour que tu aies part avec moi que je te lave les pieds. » Vous voyez la différence, qui est pourtant la même chose. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Ou bien, je te lave les pieds, c'est pour que tu aies part avec moi. Et je pense que c'est dans ce sens que Jésus a dû s'adresser à Pierre. Bien entendu, nous ne savons pas ce quel ton il a parlé, mais Jésus qui est doux et humble de cœur, qui aime Pierre, nous le savons, qui a prié pour lui pour que sa foi ne défaille pas, Jésus a sans doute voulu expliquer à Pierre la valeur de son geste et toutes les richesses qui s'y attachent. C'est pourquoi j'aimerais que nous voyions ensemble quelques aspects de cette expression « avoir part avec Jésus », donc dans un sens positif. Cette expression sous-entend une relation dans laquelle les partenaires ont des intérêts communs, des valeurs communes. Ces éléments, nous pouvons les relever dans les chapitres qui suivent. Parce que, après cet événement, ce repas et ce lavement des pieds, Jésus va entamer un long entretien avec ses disciples, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Entretien avec les disciples, d'une part, mais aussi dans sa prière avec son Père. Et dans ce chapitre, nous découvrons le sens, la pensée de Jésus quand il dit avoir part avec lui. En relisant ces chapitres, j'ai découvert en effet l'importance du verbe donner. Et j'ai compris que avoir part avec Jésus est avant tout un don. On ne peut pas avoir part sans recevoir une portion. C'est ainsi que j'ai découvert que la part que nous avons avec Jésus était un partage, un don de soi, mais aussi un don à recevoir. J'ai donc essayé de rassembler les complexités et les richesses que contient ce mot don en trois parties, en trois aspects que nous allons voir ensemble. Avoir part avec Jésus, c'est pour moi, d'après ces textes, d'abord recevoir, c'est-à-dire partager les privilèges que Jésus tient de son Père. Deuxièmement, avoir part avec Jésus, c'est être reçu, non seulement recevoir, mais c'est être reçu, c'est-à-dire entrer dans une communauté de vie et d'amour. Et troisièmement, avoir part avec Jésus, c'est agir ensemble, c'est être associé à son œuvre. Nous allons voir ces trois aspects. Je ne vais pas m'étendre longuement, mais citer les références qui étayent ces trois aspects. Partager les privilèges que Jésus tient de son Père. Souvenons-nous le contexte de ces paroles, de ce repas et de cet entretien. Jésus allait retourner vers son Père. Les disciples étaient dans la tristesse parce qu'une séparation, ce n'est jamais quelque chose de gai, quelque chose dont on se réjouit. Mais Jésus veut les rassurer. Et la première chose qu'il va leur dire au chapitre 14, c'est ceci. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place, je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le premier don, le premier bien, le premier privilège que Jésus veut partager avec ses disciples et avec nous, c'est cette demeure céleste, pour toujours. Ce n'est pas une courte visite, mais une demeure, une résidence. C'est un encouragement pour notre espérance. Mais Jésus va montrer cette détermination d'avoir ses disciples avec lui dans la prière qu'il va adresser à son Père. Au verset 24 du chapitre 17, il dira « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Donc la première fois qu'il a adressé ces paroles à ses disciples, ce n'était pas seulement une parole pour caresser, pour consoler, pour effacer les larmes, mais il y a vraiment une résolution de la part de Jésus. Il tient à ce que ses disciples soient avec lui. Et il le dit à son Père. Mais alors, nous pourrions dire, oui, c'est beau tout cela, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite la demeure céleste. D'abord, on n'en sait rien. Mais Jésus le sait. Et aussi dans la prière qu'il a adressée à son Père, il dit à son Père, « Désormais, Père, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que moi, je vais à toi. » Et en disant cela, la suite de la prière de Jésus nous dit que Jésus tient compte des difficultés que les disciples vont rencontrer dans ce monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Le monde vous hait parce que je vous ai pris du monde. Donc Jésus sait tout cela et il va y remédier. En les laissant dans le monde, il ne veut pas les laisser sans défense. D'abord, il dit à son Père, garde-les en mon nom, en ce nom que tu m'as donné. Mais en plus, il va leur envoyer un défenseur, le paraclet, le consolateur. Il va aussi leur donner sa paix. Au chapitre 14, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il va aussi leur donner la joie au sein des tribulations qu'ils vont avoir, des difficultés, des épreuves. Il leur dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez en moi la joie et que votre joie soit complète. Il va aussi leur donner, leur partager sa victoire. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Voilà donc quelques privilèges qu'on peut relever que Jésus partage avec ses disciples, déjà ici-bas et puis un jour là-haut. Mais le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que les disciples ne reçoivent pas seulement, mais ils sont reçus. Ils entrent dans une communauté de vie. Dans la prière que Jésus adresse à son Père, il y a des affirmations dans ce sens. D'abord, il commence sa prière en disant qu'il leur donne la vie éternelle. Cette vie va constituer la communauté entre le Père et le Fils, communauté dans laquelle les disciples vont entrer. Et Jésus dit, ils étaient à toi, en parlant de ses disciples, et tu me les as donnés. Il continue, je prie pour eux, pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi, est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ces affirmations nous montrent qu'il y a entre le Père et le Fils une réciprocité de dons. Réciprocité de dons. Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Et aussi une appartenance mutuelle. Et c'est dans cette communauté que nous sommes introduits. Nous sommes des donnés à Jésus parce que nous appartenions déjà au Père. Ce n'est pas souvent une vérité que nous annonçons, que nous proclamons, que de toute éternité, nous avons appartenu au Père quand il nous a créés. Nous sommes à lui de toute éternité. Évidemment, le péché est venu brouiller les cartes, mais nous portons toujours son image. Nous sommes à lui de toute éternité, il nous a créés. Et le Fils vient nous récupérer pour que nous retrouvions notre place dans cette communauté de vie avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Avoir part avec Jésus, eh bien, c'est entrer dans cette communauté. Et une communauté qui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une communauté éphémère, provisoire. Mais c'est une communauté qui existe de toute éternité et qui subsiste dans l'unité de l'amour. Une unité solide. Jésus dit, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et il précise encore, qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient un en nous. Donc il y a une interpénétration, une interdépendance, une appartenance mutuelle. On n'est pas seulement côte à côte, mais nous sommes un dans sa main et dans cette communion. Lorsque nous entendons de tels témoignages, de telles déclarations, nous sommes vraiment émerveillés. Et pourtant, c'est grâce sur grâce que nous recevons. En effet, au moment d'achever sa prière, Jésus évoque de quelle manière admirable la profondeur des liens qui l'unissent au Père et au sien, de quelle manière admirable ce lien subsiste. Il nous dévoile ce qui génère et entretient le mystère de l'unité. Il dit, tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est cet amour qui fonde l'unité de la communauté de vie. Mais on est encore davantage émerveillé lorsque nous entendons Jésus dire dans cette fin de prière, « Je leur ferai connaître encore ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Donc cet amour dont le Père a aimé le Fils de toute éternité nous envahit, nous enveloppe, nous inonde. C'est vraiment extraordinaire, avoir part avec Jésus, entrer dans cette communauté de vie. Mais nous y entrons pour quoi faire? Pourquoi Jésus nous introduit-il dans ce cercle fermé au départ, mais qui s'élargit aux dimensions du monde? Une réalité qui subsiste de toute éternité et qui maintenant se manifeste. Jésus parle de la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. En adressant aux disciples les paroles, leur faisant connaître leur intégration dans la communauté, Jésus souligne les conditions. On n'y entre pas de soi-même, de son plein gré. Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Il y a dans cette intégration la perspective d'une espérance inouïe. C'est d'abord une stabilité, ou plutôt, c'est d'abord l'assurance d'être aimé. C'est moi qui vous ai choisi, c'est-à-dire je vous ai aimé. Mais il y a l'assurance d'une stabilité, je vous ai établi à cette place, au sein de cette communauté. Je vous y ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est-à-dire l'assurance que le travail que nous allons accomplir avec Jésus, avec le Père, la bénédiction du Père, ce sera un travail fructueux. Et la stabilité dont il est question, ce n'est pas de l'immobilisme. C'est une stabilité en Christ, lui qui dit « demeurez en moi, comme moi je demeure en vous ». Ainsi, avoir part avec Jésus et entrer dans cette communauté nous maintient dans l'unité et dans l'interdépendance les uns aux autres. Nous sommes solidaires, dépendants les uns des autres, car un même amour nous unit, une même vie circule en nous. Et Jésus va, au chapitre 15, parler de la vigne. Il est le cep, nous sommes les sarments. Et la même sève coule en nous tous. Mais ce qui est merveilleux dans cette vie commune, dans cette communauté et dans cette œuvre commune à laquelle nous sommes appelés, à la prospérité de cette œuvre qui est garantie, parce que c'est lui qui travaille avec nous, ce qui est merveilleux, c'est que la part que nous avons ne diminue pas la totalité de cette communauté. Je veux dire ceci, lorsque nous partageons quelque chose, lorsque nous partageons un héritage ou un gâteau, lorsqu'on enlève une part, ça diminue le reste. Mais dans cette part que nous avons, ce qui est merveilleux, c'est que la totalité demeure. Elle n'est pas réduite, d'une part. Et d'autre part, ce que nous avons comme part, excuse-moi de cette répétition, ce que nous avons comme part, c'est la totalité. Nous recevons une portion, mais c'est la totalité que nous avons. Et c'est la totalité qui reste. Nous ne pouvons pas comprendre ce mystère. Et pourtant, c'est cela, le fait d'avoir part avec Jésus. C'est pourquoi, en terminant, après avoir mentionné ces trois parties, recevoir, être reçu et travailler ensemble, je termine par cette recommandation que Jésus a faite à ses disciples. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. je dois dire que je ne pense pas que Jésus préconisait par là la pratique d'un rite, mais c'est plutôt la finalité du geste, afin que l'autre ait part avec le Christ et que les autres aient part avec moi aussi. Je vais leur laver les pieds pour qu'ils puissent avoir part avec moi. Ce n'est pas le geste, parce que je peux bien pratiquer le geste, laver les pieds, et puis après me soucier peu de l'état spirituel, moral ou même physique de l'autre. L'apôtre Paul va dans ce sens. Il donne des indications qui semblent tout à fait judicieuses. Il s'adressait aux Philippiens et mettait devant eux l'objectif de leur vocation, de la vie commune. Il leur rappelle précisément l'abaissement du Seigneur pour l'appliquer à leur vocation. Il les encourage à se comporter entre eux comme on le fait en Jésus-Christ, Philippiens 2, 1 à 5. Et c'est là qu'il a parlé du Seigneur qui devient serviteur, qui s'est dépouillé. Tout comme lors du repas, Jésus a déposé ses vêtements pour se montrer serviteur, un domestique. Et de même, dans la vie courante, dans le comportement, dans la conduite de l'un, des uns avec les autres, c'est cette attitude qui nous appelle à avoir sans cesse, passez-moi l'expression, sans cesse penser à aider l'autre à se débarbouiller. Quand nous trouvons que l'autre n'est pas tellement présentable, cela nous arrive souvent, au lieu d'aller en parler, au lieu de critiquer, aidez-le à se débarbouiller pour qu'il soit présentable, pour qu'il ait part avec nous, pour qu'il ait part avec le Christ. Souvenons-nous, en terminant, de Moïse, qui a intercédé pour un peuple apostat. Dieu lui disait, ton peuple, sous-entendu, je ne veux plus en entendre parler. Et Moïse dit, non, c'est toujours ton peuple. Moïse a intercédé. Moïse s'est abaissé pour leur laver les pieds, pour qu'ils puissent être réintégrés dans l'Alliance. Oui, chers amis, frères et sœurs, nous rencontrons sans cesse des gens auxquels nous collons l'étiquette non-chrétien. Des gens peut-être qui ont appartenu à une église, à une assemblée, et qui s'en sont éloignés. Des gens qui ont besoin qu'on leur lave les pieds, qu'ils soient réintégrés dans la communauté de vie. Sans cesse, nous les rencontrons. Et peut-être même dans nos propres familles, dans nos proches, nous le savons. Oh, il n'est pas chrétien. Il a besoin d'être lavé. Il a besoin de retrouver sa part, sa place, dans le bienveillant dessein de Dieu. Et pour cela, pour lui laver les pieds, pour qu'il soit débarbouillé, nous avons un dispositif très efficace. C'est la prière. Si quelqu'un voit son frère dans un tel état, qu'il prie avec persévérance. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le aussi. Que le Seigneur soit avec nous. Amen.